Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Aujourd'hui, on va vous parler de Netflix qui s'attaque au partage de comptes, de Microsoft qui a fait sa conférence Build 2023 et du journal de l'IA et du journal de Twitter aussi. C'est parti pour le rendez-vous tech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 515. Nous sommes encore en mai 2023 et je suis encore Patrick Béja. J'ai le plaisir de recevoir pour cet épisode Siegfried Thouvenot, que certains d'entre vous connaîtront peut-être mieux sous le pseudonyme de Captain Web. Bonjour Captain, comment vas-tu ?
Salut Patrick, eh bien, écoute, ça va très très bien, je suis avec mon petit café là, prêt à discuter avec toi de technologie, donc que peut-on demander de plus ?
Et, non mais c'est exactement ça, je pense que la France, quand elle se lève le matin, elle se dit « alors j'ai mon petit café, je suis prêt à discuter de technologie avec Patrick, donc tout va bien, aucun autre problème voilà. Au monde !» Et grâce à la magie du podcast, c'est possible. Presque, pour tout le monde. Vous voyez, vous avez l'impression d'être avec nous à la table du petit-déjeuner du Captain. Je ne sais pas si c'est vraiment viable, oui, en fait, au final, comme...
Oui, c'est plutôt sur mon bureau plein de merde, mais bon, c'est le même principe.
Siegfried, j'espère qu'effectivement tu es en forme, parce que moi, je vais révéler un secret intime à l'audience. J'ai passé une nuit presque blanche parce que la petite était malade et donc ça a été le cirque pendant toute la nuit. Et donc, je ne suis pas très en forme, il n'y a pas de live, c'est tranquillou. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir mettre le niveau d'énergie habituel dans le podcast. Déjà là, tu sens, à partir du moment où j'ai appuyé sur record, tu as senti que tout à coup, je me suis transformé en une bête de scène. Avant, c'était...
C'est vrai que t'as tellement l'habitude, quoi. On sent tout de suite, t'étais un peu mou avant le début, et puis là, tout d'un coup, ça y est, tu lances l'enregistrement.
Et oui.
T'as gagné, t'as un booster d'énergie de fois 10, c'est incroyable.
Oui, avant, c'était genre, ouais, ça va, Siegfried, les enfants, tout ça, ouais, ok, très bien. Bon, allez, on commence le truc.
La durée des parents.
Mais il y a aussi la vie de fan de tech et il y a des choses dont on va vous parler aujourd'hui. Avant ça, je voudrais remercier les patriotes, les producteurs de cet épisode, SSI78 et Peter Rigal, grâce à qui cette émission existe. Merci à vous et merci à tous les patriotes qui soutiennent l'émission. Si vous voulez soutenir le Rendez-vous Tech, c'est sur patreon.com/rdvtech, vous le savez. Et donc, on passe tout de suite... Ah non, faut pas que je le dise. Et maintenant, on va parler de Netflix qui s'attaque enfin pour de vrai au partage de comptes. Ça fait des mois, des années, des siècles, des millénaires qu'on en parle. Eh bien, c'est enfin le cas chez nous, en France. En tout cas, ça semble avoir commencé. Je dis chez nous, moi je suis en Finlande, donc ça me concerne peut-être un peu moins. Encore que... Il y a possiblement... un membre de ma famille qui utilise mon compte à quelques milliers de kilomètres. Donc, on sait que dans le contexte de croissance ralentie pour Netflix, ils avaient commencé à s'attaquer au partage de comptes, qui était pourtant une pratique plus que courante. C'était une pratique tolérée par Netflix parce que ça leur faisait gagner des parts de marché et ça habituait les gens à utiliser leurs services pendant des années et des années.
Ouais. Et aujourd'hui... Ils ont même communiqué dessus énormément. Ouais. Au début, c'était un peu leur gimmick de dire « Allez-y, vous pouvez partager avec vos amis, etc. Faites-vous plaisir.
» Exactement. Même si officiellement, dans la documentation de Netflix, c'était autorisé pour les membres d'un même foyer. Dans le même foyer, ce n'est pas la même famille, ça veut dire les gens qui habitent au même endroit, sous le même toit. Et après des tests dans différents pays, cette restriction va s'appliquer également de manière plus sérieuse en France. Et si on a un membre de notre compte qui n'est pas dans notre foyer, il sera averti qu'il n'a pas le droit d'utiliser ce compte et il a la possibilité, on a, nous, en tant que propriétaire du compte, la possibilité de payer, je crois que c'est 6 euros en plus par utilisateur en dehors du foyer pour qu'il puisse continuer à l'utiliser. Et il faut noter que l'abonnement le moins cher qui inclut la pub chez Netflix, je ne sais pas s'il a été lancé en France. C'est possible qu'il ait été lancé en France.
Je crois qu'il a, je pense qu'il a été lancé. Alors après, je ne te cache pas que j'ai un compte famille, donc je n'ai pas regardé.
Ouais.
Mais il me semble qu'il a été lancé en France. Ouais.
Eh bien, du coup, c'est le même prix, en fait. Donc, on a un avantage quand même parce qu'on a un compte qui est... Enfin, on peut avoir un compte qui est plus... performant, qui a une meilleure définition, etc. Lecture sur plus d'écran, tout ça, tout ça. Donc, il y a deux questions qui se posent. D'une part, est-ce que les gens, tu sais, hashtag les gens sur Internet, hashtag les gens sur hashtag Internet, est-ce qu'ils veulent encore utiliser leur compte Netflix ? Ou est-ce que ça y est, c'est fini, ça vaut plus le coup, et il faut avouer que la qualité de Netflix a un peu baissé ces dernières années. Et d'un autre côté, l'autre question qui se pose, c'est comment est-ce qu'ils considèrent qu'on n'est pas dans le même foyer ? Est-ce qu'il y a des problèmes quand on voyage ? Comment ça se passe, en gros ? Mais la première question, on a vu beaucoup de réactions sur Internet de gens dire « Bon, bah, ok, si c'est comme ça, ciao Netflix, bye bye, au revoir. » Est-ce que tu crois que ça va être problématique pour eux, cette décision ?
Je pense que, honnêtement, mécaniquement, il va y avoir une baisse des abonnements, logiquement, hein, je pense que... Déjà parce que, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi, je me suis rendu compte depuis quelques temps que j'avais été quand même abonné à énormément de services, dont certains que je n'utilisais quasiment pas. Alors, quand tu es dans le cadre d'une famille, c'est un peu différent, puisque bon, moi, je sais que Netflix, j'utilise assez peu, mais mes filles l'utilisent beaucoup plus, par exemple. Mais le fait, effectivement, de pouvoir partager son compte, c'était un truc en plus. Par exemple, moi, effectivement, je ne cache pas que j'ai de la famille qui l'utilise et probablement quelqu'un aux Philippines que je ne connais pas qui a piraté mon compte il y a déjà quelques années, qui va toujours être en train de l'utiliser, mais bon. Mais du coup, bah, ça fait réfléchir parce que quand même, 7 euros en plus par mois, c'est pas négligeable, quoi.
Oui, surtout si tu as 2-3 personnes et que ça commence à s'accumuler sur les différents comptes.
Ouais, voilà, ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, bon, tu dois choisir entre payer et bon, ils ont une amitié, et c'est probable que tu dises à ton meilleur ami, bon, il est temps que tu commences à payer, parce que 7 balles par mois, je t'aime bien, mais quand même, il y a des limites à cela. Non, je pense qu'il va y avoir honnêtement une petite baisse, mais est-ce que ça va pas être compensé par les personnes qui, de l'autre côté, vont payer ce supplément par mois ?
Exactement.
Je pense qu'au final, pour Netflix, ils ont fait leur calcul. Si c'était vraiment dangereux pour eux, ils le feraient pas.
On est assez d'accord, oui. Je crois qu'il y a beaucoup... Il faut vraiment... C'est un cas typique de la situation où il faut faire la part des choses entre les gens qui gueulent sur Twitter et la manière dont ça se passe, effectivement. Netflix a déjà implémenté ce système dans différents pays. Alors, c'est jamais exactement le même contexte, donc c'est pas transposable de 1 à 1, mais dans ces pays-là, visiblement, les choses se sont bien passées. Et d'une manière générale, Netflix a perdu des abonnés une ou deux fois depuis sa création, il y a genre 2 ans ou 1 an. Et depuis, ils en ont regagné genre 5 fois plus que ce qu'ils avaient perdu. Ils sont tout à fait en forme. Donc moi, je crois que ça ne va pas vraiment les affecter. Et comme tu le dis, sinon, ils ne le feraient pas.
Il y a aussi l'effet post-Covid, c'est-à-dire qu'un peu comme dans d'autres catégories de produits, au moment du Covid, avec les confinements et tout, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'étaient abonnés et qui peut-être ont commencé, en plus avec l'inflation, à se dire « bon, je vais quand même couper, est-ce que j'utilise tant que ça ?» Il y a tellement de services aujourd'hui vidéo que forcément, la part de gâteau est plus petite pour chaque
service.
Fournisseur. Ouais, chaque service, ouais.
Je pense que, moi, j'imagine que ça va être compensé, effectivement. Les gens qui partageaient leur compte par habitude quand ils étaient lycéens, étudiants, et qui l'ont gardé parce que c'était comme ça, et qui ont maintenant un petit peu de quoi se payer ce genre de service. Eh ben, ça va compenser ceux qui vont arrêter. Parce que ceux qui arrêtent, ce n'est pas juste qu'il faut arrêter de partager le compte, c'est se dire, bon, bah, si je ne peux plus le partager, ça ne vaut plus le coup de payer du tout, y compris le propriétaire du compte principal. Alors, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont dans des sortes de coopératives ou qui utilisent des services comme Split ou ce genre de choses pour partager le paiement du compte entre eux. Et pour eux, donc, le fait de ne plus pouvoir partager, ça veut dire, bah, je ne peux pas payer le compte, enfin le prix total. Ok, bon, ça va être quelques cas, mais dans l'ensemble, je pense que les gens qui vont arrêter de partager, bah, c'est ceux qui ne payaient pas qui vont arrêter de regarder. Donc, bon,
Oui, ça, de toute façon, il y a de nombreux moyens. Ceux qui veulent vraiment continuer à partager leur compte sans payer, ils trouveront un moyen via un VPN privé ou quelque chose comme ça.
C'est plus compliqué.
Peu de doute. Ouais, je connais quelqu'un qui s'est abonné à utiliser un VPN pour s'abonner en Turquie, parce que là-bas, c'est extrêmement peu cher. Si tu peux. Et du coup, paye vraiment une misère par mois pour... Il y a toujours, si tu veux économiser de l'argent et que tu es vraiment un gros radin, il y a toujours moyen, à mon avis, d'y arriver. Hein.
Et justement, ça nous amène à la question de comment est-ce qu'il repère le fait que ça soit votre compte ou pas, ou votre foyer ou pas. En gros, je schématise un tout petit peu, mais en gros... le service vérifie que votre appareil a été utilisé dans le foyer du compte principal du détenteur du compte dans les 30 derniers jours. Donc, si vous êtes en déplacement, si vous êtes en voyage, ce genre de choses. Si votre appareil, votre téléphone, votre ordinateur a été utilisé dans votre foyer, à votre domicile, pendant les 30 derniers jours, pas de souci. Si il n'a pas été utilisé dans les 30 derniers jours, eh ben, il vous envoie un code de vérification par SMS à rentrer dans les 15 minutes. Et si vous rentrez le code, c'est bon. Donc, à voir tous les combien de temps il vous le fait. Peut-être que ça sera à chaque fois que vous vous connectez qu'il le fera. Mais même là, c'est possible aussi. C'est moins pratique, évidemment, mais c'est possible de contourner le truc. Mais
il y a des solutions techniques.
Voilà. Mais pour les gens qui sont véritablement abonnés depuis leur foyer, bon, si vous rentrez chez vous une fois tous les 30 jours, ça devrait aller.
Oui. Après, la question qui se pose, c'est de savoir comment est-ce qu'il détecte l'IP principale.
Ouais.
Parce qu'en réalité, si tu partages ton compte avec 5 personnes et qu'il y a une personne qui se connecte plus que les autres en début de mois, si tu veux, et que c'est il est considéré comme l'IP principale, ça peut être problématique. Quoi. Je pense qu'on va... Enfin, je ne sais pas, ça a déjà été lancé aux États-Unis, si je ne me trompe pas, depuis peut-être une semaine ou deux, non ? Des choses comme ça.
Oui, dans différents pays, à différents moments.
Ouais, je suis assez curieux de voir les premiers retours dessus parce que techniquement, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas des petits glitchs qui fassent que les abonnés principaux, ceux qui payent le compte, se retrouvent bloqués à un moment ou à un autre.
Bah, je pense qu'ils prennent en compte, si tu as différents comptes d'utilisateurs dans ton compte Netflix, ils prennent en compte la personne qui est le plus souvent au foyer. Si tout le monde utilise le même compte avec les mêmes utilisateurs, là, effectivement, ça risque de compliquer un petit peu, c'est possible.
Oui, ce qui doit être, mais doit c'est être rare. C'était souvent le cas, je pense.
Bah, ouais. Tu vas avoir tes recommandations quand même, tu vois, personnalisées. Tu vas dire, bon, ok, bon, papy,
utilise les recommandations de Netflix. Honnêtement,
c'est possible. Oui, mais au moins, ta liste de vues, ton historique, je sais pas. Bon.
Ouais, je sais pas. Je sais que chez moi, par exemple, on utilise quasiment tous le même.
Ah ouais.
Compte, on sait pas trop. Ah ouais.
D'accord. Okay.
Mais bon, aussi peut-être parce que j'utilise pas autant Netflix que mes enfants, si tu veux.
Possible.
Ouais.
Mais bon. Bon, en tout cas. On va voir, quoi. En tout cas, ça y est, ça s'est lancé en France aussi, donc vous pouvez brûler votre carte bleue si vous êtes mécontent de Netflix. L'autre chose dont je voulais parler, c'est la conférence Microsoft Build 2023. Qui a eu lieu la semaine dernière. Alors, c'est la période des conférences de développeurs, hein, des GAFAM. Comme vous le savez, évidemment, on a eu Google il y a quelques jours, la semaine dernière. On a Apple la semaine prochaine. Et là, c'était au tour de Microsoft. Et il y a eu beaucoup d'annonces, beaucoup d'annonces liées à l'IA, évidemment, liées à l'IA. Oh, 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 c'est pas mal ça. Mais la principale, c'est que Windows 11... va récupérer un assistant personnel par IA qui s'appellera Copilot, comme tous les assistants personnels de Microsoft de ces dernières semaines et derniers mois. Il est déjà dans GitHub depuis longtemps, il est arrivé dans Edge avec le nouveau Bing, il est intégré à Office petit à petit, et là, il sera carrément intégré à Windows, entièrement. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Ça aurait, à vrai dire, été sans doute l'information la plus importante de cette émission, parce que intégrer une IA conversationnelle à Windows, avec les limitations qu'on va lui connaître, évidemment, ça peut potentiellement à terme faire de cette interface un moyen de contrôler Windows qui est plus pratique et qui fonctionne mieux. Mieux pour certaines choses que le fait de cliquer avec la souris et de taper au clavier. Alors, ça contrôle certaines choses de Windows, ça fait, en gros, ça va regarder quelles fenêtres vous utilisez, ça va vous permettre de faire... Je me demande, il faudra tester, on n'a pas eu énormément de détails dessus, mais ouais. Il peut par exemple, faire un résumé de ce que vous êtes en train de lire, réécrire certaines choses, ou ajuster les paramètres de votre ordinateur. Donc, ce n'est pas juste comme Bing, l'assistant de Bing qui va lire les pages web et vous les résumer ou ce genre de choses. Il peut aussi affecter votre ordinateur lui-même. Donc, si on lui dit avec la voix ou avec le texte « change-moi ce paramètre, désactive le HDR, machin », eh ben, ce qu'on a vu des assistants IA depuis ces derniers mois, c'est qu'il comprend beaucoup mieux que les assistants comme Siri qui n'ont pas évolué depuis des années et des années, et donc ça pourrait fonctionner. Il y a d'autres annonces également. Le fait qu'il y aura des plugins dans le copilote de Microsoft 365. Il y a l'IA dans le Windows Terminal. Il y a, pour le côté ChatGPT, Bing, donc le moteur de recherche, sera intégré par défaut à ChatGPT, donc il va enfin pouvoir lire Internet, véritablement, ChatGPT, donc ça lui ouvre les informations au-delà de sa base de données qui s'arrête en 2021. Donc il y a tout ça, et en gros, c'est, comme on s'en douterait, l'IA partout, mais moi, ce que je retiens vraiment, c'est un assistant dans Windows 11. C'est hyper important. En fonction de comment c'est implémenté, ça pourrait être majeur comme évolution.
Alors ouais, c'est clairement peut-être la plus grosse nouveauté qu'il y a eu depuis 10 ans, et peut-être même plus dans Microsoft Windows. Microsoft Windows, bon, ça évolue de version en version, mais honnêtement, à part quelques changements cosmétiques, puis beaucoup de travail, évidemment, sur le code, etc., et sur peut-être la navigation, quelque chose d'aussi important, parce qu'il y avait Cortana, mais honnêtement, qui utilise Cortana, c'est le premier truc que tu désactives.
Quand ouais, ils l'ont viré après quelques années.
Ouais, bah ils l'ont viré, parce que moi je sais qu'il était encore... Ah oui, parce que j'ai des vieux ordinateurs sur Windows 7 et...
C'est ça, c'est ça, sur Windows 11. Ah, il y a l'application Cortana, je suis même pas connecté à l'application Cortana, comme quoi.
Mais c'est vrai que ça peut changer potentiellement, ça peut changer totalement la façon dont tu utilises ton système d'exploitation. Le fait, parce que jusqu'à maintenant, quand tu dois chercher certains paramètres, alors effectivement, tu commences à taper les premiers mots, ça s'affiche dans ton menu, etc. Mais avoir un assistant auquel tu dis « change-moi, passe-moi mes écrans dual screen en 5 secondes, fais-moi un partage de connexion, ou alors mets-moi sur ma fenêtre de paramètres les trucs que tu mets 5 secondes à chercher parce que c'est dans un sous-menu », ça peut être assez génial. Mais en règle générale, l'IA intégrée à Windows et intégrée à toutes les applications Microsoft, hein, que ce soit surtout le Word, etc., Outlook, ça va, à mon avis, tout changer. Et je suis un gros utilisateur de ChatGPT depuis des mois maintenant. Et honnêtement, ça change ta façon de travailler d'une façon assez folle. Que pour plein de trucs à la con, où avant, je me posais 10-15 minutes à taper une lettre, avec ChatGPT, en 5 secondes, c'est fait, quoi. Et c'est un changement vraiment de paradigme qui fait réfléchir.
Il y a quelques infos là-dessus dans la deuxième partie de l'émission, on y viendra tout à l'heure, mais sur l'aspect interface, il y a vraiment un élément qui est important à comprendre, c'est que l'une des caractéristiques importantes de ces IA génératives, c'est que bien appliquée, c'est une interface utilisateur, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de devoir comprendre les menus, les boutons et l'utilisation d'un logiciel qui est parfois un peu complexe, eh ben on peut, encore une fois, si c'est bien implémenté, j'insiste là-dessus, on peut interagir avec les applications ou les machines en leur parlant et en lisant ou en écoutant ce qu'elles nous disent. Donc, c'est un changement radical qui en est à ses balbutiements encore là, mais le fait que Windows, que Microsoft ne s'arrête pas. On pourrait se dire, ils ont intégré à Bing, puis à Microsoft 365, puis à Office, ok, ils vont se calmer deux secondes. Non, ils ne se reposent pas, ils ne s'assoient pas. C'est vraiment, on va l'implémenter partout. Et c'est un rush, c'est une ruée vers l'or qui donnera vraiment son potentiel dans plusieurs années, mais Microsoft ne se repose pas, quoi.
Non, mais ils ont mis toute leur bille là-dedans, clairement. Bon, avec Bing, on peut comprendre... ne serait-ce que parce que Bing avait une part de marché qui était absolument catastrophique. Donc, ils se sont dit, de toute façon, on n'a rien à perdre là-dedans. Mmh. Mais l'intégration à Windows, ça prouve qu'au-delà simplement du moteur de recherche, etc., ils ont une véritable vision, je pense, sur l'avenir, sur ce qui va être l'intégration de l'IA générative dans Windows, tout comme Adobe, par exemple, le fait. On pourrait parler aussi d'Adobe avec l'intégration de l'IA dans les nouveaux logiciels. C'est incroyable ce qui va se passer. Ça va changer beaucoup, beaucoup de choses. Mais ça va aussi aider pour l'accessibilité, pour les personnes qui ont du mal, justement, alors, soit ceux qui connaissent mal les ordinateurs et qui ont du mal à s'en sortir avec, soit les personnes qui ont qui sont handicapées. Le fait d'avoir une interface qui marche bien, vraiment un assistant personnel qui répond correctement, qui comprend mieux les choses que pouvait le faire Cortana, ça va vraiment pouvoir aider beaucoup de monde, je pense.
Justement, on va parler, je ne sais pas si je l'ai mise dans les notes de l'émission, mais on a dans la newsletter un lien vers le fonctionnement, enfin des exemples assez incroyables de l'utilisation d'Adobe. C'est Firefly ? Non, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, l'IA générative.
Firefly, en fait, c'est l'ensemble de tout ce qu'ils vont rajouter. Mais y a, dans chaque logiciel, ils ont prévu des choses. Alors, dans Photoshop, par exemple, ça va être de l'IA générative pour rajouter des éléments à une image, etc. Tu as une photo, par exemple, et tu lui dis, c'est une photo de la mer, tu lui dis, rajoute-moi un bateau au fond ou un phare, etc. Tu as en vectoriel sur un Adobe Illustrator, où là, pour le coup, tu vas faire, par exemple, un dessin à la main, tu scannes et tu lui dis, fais-moi un dessin vectoriel à partir de ça, il va te proposer plusieurs. Ouais. Tous les logiciels, ils sont en train d'intégrer. Et je crois que c'est le cas de tous les gros fabricants, développeurs. Quoi.
Et, oui, vers l'or. Là aussi, et... Sur le Photoshop spécifiquement, un exemple très impressionnant que j'ai vu ces derniers jours, et c'est celui-là que j'intégrerai dans la newsletter des Patriotes, je pense, c'est un flux Twitter où quelqu'un a utilisé cette IA générative de remplissage pour étendre les images d'albums de musique connus. C'est-à-dire qu'on prend l'album de base, on étend le canevas au-delà, très au-delà, pour que l'album de base soit un petit carré au milieu du canevas, et on lui dit, remplis le reste. Et le résultat est non seulement hyper impressionnant, mais hyper convaincant. On a vu l'exemple avec Thriller de Michael Jackson, où il est allongé sur un piano. Il y a plein d'exemples hyper impressionnants, et ça fonctionne. Ça fonctionne totalement, et ça fait des résultats parfois même encore plus psychédéliques que ce qu'on voit sur certains albums.
Et on avait déjà vu ça avec des œuvres d'art où ils avaient étendu effectivement la zone des tableaux célèbres. Et là, on le voit, mais ça fonctionne pour tout. Et ce qui est fou, je trouve, c'est qu'il y a... Honnêtement, on m'aurait parlé de choses comme ça il y a 2 ans et demi, 3 ans. J'aurais dit, c'est de la science-fiction, ça n'arrivera pas avant 20 ans. Quoi. Et là, on est dans... Ça avance à toute vitesse. C'est assez incroyable. Ça pose la question aussi de savoir, par exemple, pour Microsoft, qui va l'intégrer absolument partout dans toutes ses applications, la puissance serveur derrière qui va être nécessaire. Je serais très curieux de savoir combien de serveurs sont dédiés par exemple à Bing, Bing Chat, parce que vu le nombre de personnes qui l'utilisent et vu quand même les ressources que ça demande, alors après évidemment Microsoft a Azure derrière et à son infrastructure.
Ça consomme clairement. Hein. On avait l'information qu'une recherche par exemple assistée par IA consommait 10 fois plus, si je ne me trompe pas, c'est de cet ordre-là, 10 fois plus de ressources serveurs qu'une recherche classique. Donc c'est pas anodin
c'est
du tout.
Étonnant. Non, clairement.
Surtout mais si après, c'est intégré à Windows et que tout le monde peut l'utiliser gratuitement.
Voilà.
Peut-être que ça sera payant, je ne sais pas, on verra. Une autre nouvelle de science-fiction, c'est cette dernière news de la... Il y avait plein de news, hein, mais c'est celle qu'on retient de la conférence Build. C'est l'intégration à Windows d'outils pour décompresser d'autres formats que le ZIP. Le RAR, le G7, et donc WinRAR, c'est au revoir petit machin parti trop tôt. c'est marrant, on a vu plein de mèmes là-dessus.
Important, j'étais vraiment prêt à payer mon argent, la fameuse période Shareware là.
Ouais.
C'est le truc où ils te demandent à chaque fois. Tu es sûr que tu ne veux pas payer ?
Ouais.
Ça fait 25 ans que tu réponds non, merci, c'est bon. Je ferai ça la prochaine fois.
C'était juste au moment où tu te disais, bon, allez, je vais finir par payer. Et ben Windows va intégrer la décompression de ces formats-là. Ouais. C'est sans doute une nouvelle plus importante, même encore que l'IA, possiblement.
Oui. Pour les gens qui, comme nous, cliquons sur le même bouton depuis effectivement 30 ans, c'est.
Tu sais, moi, j'ai plus installé WinRAR depuis des années et des années. C'est devenu suffisamment rare d'avoir du WinRAR, d'avoir du RAR. Oui, mais parce que toi, tu traînes dans les recoins sombres d'Internet où on utilise ce genre de format. Moi, je suis une personne, tu vois, comment on dit, respectable, monsieur Captain.
J'imagine pas ce que je peux décompresser.
On va continuer à couvrir l'IA avec le journal de l'IA, mais avant ça, j'aimerais tout de même vous rappeler que si vous écoutez cette émission, c'est grâce aux Patriotes. Les Patriotes qui soutiennent l'émission financièrement, ce qui lui permet d'exister. Et oui, sans eux, je pense qu'à un moment, j'aurais dû arrêter de faire cette émission. Mais comme ils sont là, eh bien, elle est encore là. Ils sont là, donc elle est là. Et ce qui est important à retenir là-dedans, c'est que l'émission vit grâce à vous, grâce aux soutiens qui vont sur patreon.com/rdvtech. Vous sentez que je suis moins dynamique dans ma promo du Patreon cette fois-ci, hein. Vous sentez que je suis un petit peu fatigué. Mais ça n'en est pas moins sincère, mes remerciements et l'importance de cette action. Donc, si vous y pensez depuis un moment, c'est peut-être maintenant... Avant que l'IA, c'est comme WinRAR, tu sais, avant que l'IA ne rende le podcast inutile, parce que tout sera fait par des robots, eh bien, vous pourriez vous dire, allez, pour le dernier hurrah de cette émission, je vais soutenir sur patreon.com/rdvtech. Merci à tous ceux et à toutes celles qui le font.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Je sais que tu plaisantes, mais j'ai vu un article de Wired. Où...
Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?
Ah, excuse-moi, j'ai parlé pendant le jingle.
Mais c'est pas grave, c'est pas grave, vas-y.
Non, je disais que tu plaisantes, mais j'ai lu un article de Wired où ils expliquaient que les podcasts générés par l'IA arrivaient.
Mais oui !
Et que ça allait être extrêmement ennuyeux comme contenu.
Je l'ai vu aussi, et j'étais très heureux, je l'ai d'ailleurs dans les notes de l'émission.
Mais les humains.
Il y a The Joe Rogan AI Experience ou Myself, I am AI and that. Et leur conclusion, c'est effectivement, c'est qu'à ce stade, c'est quand même très, très chiant, ces podcasts. Oui. Donc, j'étais content de me dire, ah, bon, j'ai encore
quelques
mois.
Les petits producteurs humains encore, tant qu'il en reste.
Mais oui, non, mais c'est ça, c'est qu'on se dit, c'est pas que tout va bien pour jusqu'à la fin des temps, c'est que j'ai encore quelques mois avant que ça devienne super fun, les podcasts faits par IA, donc ça va. Et justement, en parlant d'IA, plusieurs sujets IA-ifiés. D'abord, une lettre ouverte de nombreux... où elle est d'ailleurs, cette lettre ouverte ? Je ne sais plus où je l'ai mise. C'est une lettre ouverte de nombreuses personnalités du monde de l'IA, genre des centaines de spécialistes connus et reconnus, des gens qui étaient chez DeepMind, qui sont chez OpenAI, etc., qui disent la gestion de l'IA... pour gérer le risque existentiel de l'humanité devrait être une priorité pour tous les gouvernements, autant que les problèmes nucléaires ou de l'environnement.
Climatique.
Voilà. Donc, bon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ça, mais peut-être qu'il faut s'y intéresser également et le comprendre. Mais je ne suis pas super inquiet parce que les gens... encore une fois, les gens de l'Internet s'intéressent à ces sujets. Et d'ailleurs, Sam Altman, donc le président de OpenAI, a continué à le faire. Il a également publié une application iOS. On en parlait la semaine dernière. Elle est disponible en France. Une application ChatGPT, hein, bien sûr. Il a dit on n'a pas l'intention de quitter la France. On en parlait il y a quelques temps. Mais en gros, ce qu'on retient de ça, c'est que les experts dans ce domaine militent pour que les gouvernements s'intéressent à l'IA et gèrent les risques potentiels avec sérieux. Et je pense que, justement, c'est pas... Enfin, c'est bien de le dire, mais en tout cas, en Europe, on est au fait de ces problèmes. Et à vrai dire, comme on en parlait il y a quelque temps avec l'intuition de tout le monde l'utilise, j'en parlais la semaine dernière, je crois, avec des exemples de gens qui retrouvaient dans des textes, dans tous les domaines de la société, dans des textes... comment ils disaient, c'est... régénérer cette réponse, qui est un truc qu'inscrit ChatGPT, donc on l'a trouvé sur plein de... Ce qui veut dire que tout le monde l'utilise. Ben, on a une confirmation avec cette étude qui a été faite aux États-Unis qui dit que sur 3000 travailleurs américains qui vont de toutes les générations, en fait, des baby-boomers jusqu'aux Gen Zers, 85% d'entre eux ont déjà utilisé l'IA pour accomplir une tâche au travail. Et alors, il y a des variations, bien sûr, entre les différents âges, mais d'une manière générale, les gens, encore eux, sont très, très au courant de l'IA et l'utilisent déjà. Et je me dis que si ça percolé dans la société, partout, à tous les niveaux comme ça, ça percole, je ne sais pas si on dit ça en français, dans les gouvernements aussi, donc on s'y intéresse.
L'adoption, la vitesse d'adoption est absolument hallucinante. Hein. Ouais. C'est vraiment... Je crois pas avoir vu une technologie aussi vite adoptée. Je ne vais pas dire que tout le monde l'utilise, mais par exemple, moi qui ai des enfants qui sont au lycée, je vois que quasiment tout le monde maintenant les utilise et j'ai un peu peur pour les profs. Hein, j'aimerais pas être à leur place parce que vraiment, je ne sais pas comment ils vont faire pour noter bientôt parce que quasiment tous les gosses, les amis de mes filles que je connais, ils ont tous à un moment ou un autre utilisé ça. Quoi. Ils se partagent dans WhatsApp les bons plans pour les devoirs, etc. Quoi. C'est incroyable.
Et ben, justement, à ce propos, il y a un... Parce que les enfants, à la limite, tu te dis, oui, ils font les trucs très vite, ils s'adaptent. Mais les personnes plus âgées, c'est ça qui me surprend. Mais il y a un avocat à New York qu'on commence à voir les conséquences maintenant. Il y a un avocat qui a des gros problèmes maintenant parce qu'il a utilisé ChatGPT pour rédiger un document légal. Et il se trouve que, comme on en parle dans l'émission depuis longtemps, ce document légal est plein de trucs inventés, de trucs qui n'existent pas, des citations de trucs qui n'existent pas, etc., etc. Et du coup, les décisions... Enfin, le document est complètement invalidé. Enfin, c'est plus qu'invalidé, c'est anti-professionnel. Et du coup, le type est dans la panade. C'est marrant parce que quand il a expliqué ce qui s'est passé et pourquoi il a fait ce document, il a expliqué qu'il n'avait pas compris que ChatGPT pouvait inventer des trucs. Et donc, il s'est dit, oh, c'est bon. Donc, sachez-le également, tout le monde le sait, je pense, maintenant. Mais c'est marrant de voir les premières conséquences, en plus de l'utilisation et des problèmes que ça peut poser pour l'utilisation, de voir les premières conséquences de professions qui utilisent directement ChatGPT, hein, même pas des outils spécialisés ou sécurisés ou quoi que ce soit, et qui se rendent compte, ah bah merde.
Parce que les gens s'en...
On m'aurait menti.
Ouais, c'est ça. Les gens ne se rendent pas compte que c'est un modèle de langage. En fait, tout ce qu'il fait, c'est statistiquement voir quel va être le prochain mot. Et au final, quand il n'a pas une information, il invente n'importe quoi. ce qui, dans certains métiers, effectivement, n'est pas terrible. Et c'est là que la prochaine étape de l'IA, donc, qui sera l'AGI, la fameuse intelligence artificielle générale, à savoir quelque chose qui va être plus proche de l'humain, qui va pouvoir réfléchir au contexte et prendre des décisions en fonction des informations qu'il a et qu'il n'a pas, c'est là où vraiment ça va encore plus changer les choses.
Et ah bah là, l'Artificial General Intelligence, donc en gros, l'AGI, ce qu'on appelle AGI, c'est une intelligence artificielle qui est proche d'une conscience humaine, en gros. Voilà, c'est comme ça qu'on définit. On n'y est pas encore. Et il y a des gens, là,
certains
on est...
Certains pensent que GPT-5 sera proche et qu'il y a déjà des étincelles. Qui c'est qui avait dit ça? C'était pas quelqu'un de chez Microsoft. Qu'il y avait des étincelles d'AGI déjà dans GPT-4 et que, pourtant, c'est un modèle de langage. Après, je ne suis pas spécialiste. Mais que peut-être dans GPT-5, on allait justement voir les premières
Alors, on ne sait pas traces. Si ça sera dans un an ou dans 10 ans ou dans 50 ans.
Oui.
Mais oui, bon, écoutez, on s'attellera à ce problème-là une fois qu'il sera là. En même temps,
faites attention quand vous faites des documents.
C'est ça. Ce que disent les spécialistes, c'est qu'il faut se préparer à cette éventualité, effectivement, parce que là, ça sera... Et ce n'est pas une question de conscience d'IA qui va nous exterminer, c'est une question de comment est-ce qu'on va gérer ça au niveau de la société quand on pourra faire des humains artificiels. C'est plutôt ça, quoi. Ouais. Et c'est à ce moment-là que les podcasts artificiels deviendront intéressants. Donc,
voilà. Tu pourras avoir une conversation. Même... Tu n'auras plus besoin de demander à des gens. Tu pourras directement inviter des intelligences artificielles qui viendront parler avec toi. Tu imagines ça?
Écoute, on mettra tous les podcasts de l'apéro du Capitaine dans l'IA et je lui dirai, écoute, je voudrais faire une émission avec Quakos et Captain Web. Donc, est-ce que tu peux jouer leur rôle? Ok, merci. Et j'aurai même plus besoin de vous.
Donc, exactement.
Je déclare ici...
Je ne suis pas sûr que tu gagneras au change, mais... Bon.
Je déclare ici que mes podcasts sont utilisables très librement, mais est-ce que je dois dire pas par les IA? Faut me demander avant. Voilà. On va dire ça comme ça. Google DeepMind, oui, il y a quelques utilisations réussies de l'IA aussi, hein, parce qu'on s'amuse des ratés, mais il y a aussi des choses qui fonctionnent bien. Un exemple, c'est la manière dont ils peuvent utiliser leur modèle d'IA pour créer des descriptions de vidéos YouTube Shorts, vous savez, le modèle à la TikTok, ce qui aide à améliorer la découvrabilité de ces vidéos, des vidéos courtes. Donc là, c'est une implémentation concrète de l'utilisation de l'IA. Elle écrit une description de la vidéo et ça vous aidera à la trouver. Il y a aussi un outil qui s'appelle Story Engine, qui a été testé par des journalistes, qui permet d'écrire un roman dont on va contrôler tous les éléments. Et du coup, c'est un outil qui est désigné, qui est conçu avec énormément d'IA, mais qui va vous permettre de définir des éléments qui vont rester à travers l'histoire. C'est-à-dire qu'on va définir les personnages, les lieux, et le truc, c'est que les outils précédents ne gardaient pas le contexte. Donc, l'exemple que donne le journaliste de The Verge, c'est parfois, on rentrait, il y avait un personnage qui rentrait dans un ascenseur et à l'arrivée, ben, il rentrait encore une fois dans l'ascenseur. Tu vois, et ben là, ce nouvel outil ne fait plus ce genre d'erreur et réussit à garder une constance de contexte en lui donnant... En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on lui dit, on lui donne quelques idées, donc des idées en vrac. On a le genre qu'on peut définir avec plusieurs mots-clés, le style, les personnages et le synopsis. Et après, il va nous écrire tout ça et on va reprendre certains éléments et affiner les choses. Donc, c'est vraiment un outil qui va vous aider à pas juste écrire une fois et c'est terminé, mais à affiner le résultat. Et là où c'est important, ce genre d'évolution, c'est que... Comme l'IA générative, généralement, elle fait un vomi de texte et elle n'a pas vraiment le contrôle dessus, elle ne sait pas exactement ce qu'elle a dit parfois, là, ils ont réussi à gérer les choses suffisamment bien pour qu'on puisse affiner les choses. C'est comme, par exemple, les IA génératives d'images. On fait une image, on ne peut plus reprendre le même personnage. Il faut bidouiller pour faire ce genre de choses. Là, c'est un peu pareil. Et ils ont bidouillé, ils ont réussi à améliorer le truc. Ce n'est pas parfait, mais bon, il n'y a pas que les podcasteurs qui s'inquiètent, quoi.
Voilà, mais on s'en fout quand tu postes, de toute façon, des livres sur Amazon, des milliers de bouquins générés par l'IA.
Quand tu essaies de faire de l'argent rapidement.
Voilà, c'est ça, ouais. Exactement. Mais c'est, là aussi, c'est un exemple incroyable de ce qui va pouvoir être fait. Ça donne une petite vision de ce qu'on va avoir dans un an, deux ans, trois ans. Et on va être submergé, en fait, de contenu généré. Et je ne sais pas comment on va gérer ce bordel, honnêtement.
C'est l'un des problèmes. Ouais.
Parce que même en termes, imagine la place que rien que Midjourney où je sais pas combien de milliers d'images sont créées toutes les minutes. Je veux dire le stockage que ça représente, c'est fou.
Une évolution positive qui est aidée par l'IA. Alors c'est pas tout à fait uniquement de l'IA. Il y a plein de technologies qui sont impliquées dans la chose. C'est un outil qui permet à une personne paralysée des jambes de remarcher. Alors, pas remarcher parfaitement bien, mais il a en fait des petites électrodes implantées dans le cerveau. C'est un petit peu ce qu'essaye de faire Elon Musk avec Neuralink. Et ces électrodes sont ensuite passées par un ordinateur et connectées à sa colonne vertébrale. Et ça lui permet, en pensant à des actions spécifiques, de faire bouger ses jambes. Alors, c'est pas, il court pas un marathon, hein, mais il peut se déplacer chez lui, au restaurant, etc., avec quelques difficultés, mais ça fonctionne. Et la raison pour laquelle je le mentionne avec l'IA, c'est qu'il y a une interprétation des signaux qui est faite par IA pour bien les retransmettre aux membres inférieurs. Donc, l'IA joue un rôle là-dedans, mais il y a évidemment énormément de technologies. Enfin, la technologie mécanique électronique pour implanter les électrodes, l'ordinateur lui-même, etc. Mais ça commence, en gros, à fonctionner. On a les premières applications concrètes de ce type de technologie, d'implantation d'électrodes dans le cerveau pour contrôler ensuite, par exemple, des membres paralysés. Il y a énormément d'autres applications, mais ça commence à fonctionner vraiment. Donc ça, c'est assez impressionnant
c'est,
aussi. Ouais,
c'est assez fantastique aussi.
Voilà pour le journal de l'IA. On passe au journal de Twitter. Elon Musk continue à faire des siennes. Il a notamment retiré Twitter du pacte volontaire de combat contre la désinformation de l'Union européenne. C'est un pacte qui est, comme son nom l'indique, volontaire, où des grosses sociétés, des gros réseaux sociaux s'intègrent et ont certaines obligations quand elles sont dans le pacte, de transparence, d'action rapide, etc. Et Twitter l'a quitté. Thierry Breton s'en est agacé, et on peut le comprendre, mais il a rappelé que le Digital Services Act, qui est une loi européenne qui va être implémentée fin août, a à peu près les mêmes obligations que ce pacte volontaire et elle s'applique à tous les gros fournisseurs de services type Twitter. Que ce qu'il disait, c'est que les obligations restent. Donc,
c'est pas un choix.
Voilà, il y a plus de choix, machin. Alors, il y a des gens qui ont dit, oh, mais du coup, c'est un bras d'honneur à l'Union européenne. Est-ce qu'il va quitter Twitter? Est-ce que Twitter va quitter l'Europe? Parce que s'il ne veut pas le faire, moi, je pense que ça n'a rien à voir avec ça, qu'ils vont rester en Europe. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre, non, je ne sais pas, 30% de leurs revenus. J'imagine que, je ne sais pas combien vient, mais de l'Europe.
Rappelons que cet homme doit rembourser 100 millions d'euros, enfin, que Twitter doit rembourser 100 millions d'euros par mois de...
C'est pas le moment millions, de... je me souviens plus déjà, oui, c'est quelque chose comme ça. Oui, 1 milliard par an. Ouais.
Mais c'est 1,2 milliard par an, je crois. C'est ça. Donc, c'est pas le moment de se mettre l'Union européenne à dos et de m'en donner un marché pareil.
C'est clair.
Même si, bon, vu leur revenu publicitaire, c'est pas non plus... je suis passé à changer grand-chose.
Ah bah, avec la nouvelle présidente, ça pourrait améliorer les choses. Mais oui, enfin, ils ont besoin de toutes les forces qu'ils peuvent avoir. D'autant plus que... Je ne sais pas si tu as vu cet incident avec le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis.
Oui, il y a eu quelques problèmes, je crois, lors de l'annonce de du lancement de sa campagne, non, sur Twitter.
Exactement. Ron DeSantis, donc, qui est le gouverneur de la Floride, qui a passé des lois un petit peu bizarres ces derniers temps, a voulu lancer sa campagne présidentielle dans un Twitter Space, donc sur Twitter, ce qui était un gros, gros événement pour Twitter et évidemment pour le monde politique américain. Malheureusement pour lui, eh bien, ça ne s'est pas bien passé du tout. Il y a eu énormément de crash, de bugs dans le Twitter Space. On rappelle, pour ceux qui ne s'en souviennent plus, que Twitter Space, c'est une sorte de service de live streaming audio uniquement, qui est accessible à tout le monde. Hein. N'importe qui peut ouvrir un space et tout le monde peut écouter. Et donc là, ça ne s'est pas bien passé du tout. Et l'annonce, un petit peu, qui était un gros événement, comme je le disais, politique, a été déraillée. Alors, on a appris ensuite qu'il n'avait pas payé le prestataire technique qui s'occupait de certains aspects de la diffusion, que l'équipe qui gère les Twitter Spaces, elle est passée de 100 à 3, enfin de 100 personnes à 3 personnes depuis qu'il est arrivé. Bref, bon.
À mon avis, ils sont pas aux 35 heures, hein, les 3 personnes qui restent, je pense.
En même temps, quand t'es 3 au lieu de 100, je pense que même si tu fais 70 heures,
c'est pas ça.
Tu peux pas faire beaucoup de miracles, quoi.
On est au-delà des réductions budgétaires. Là, on est vraiment dans le, on passe tout à la poubelle et
c'est ça.
On voit ce qui se passe, quoi.
Et bien sûr, Elon Musk lui-même a dit, tout le monde en parle maintenant parce que tout le monde a dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce bordel, machin. Ce qui est quand même pas une bonne nouvelle pour Twitter, c'est que je pense que il va y avoir. C'était une occasion pour Twitter de s'établir en tant que média d'événements. même si c'est que de l'audio, mais de médias d'événements importants, d'annonces et ce genre de choses. Là, si tu as une annonce importante, je pense que pendant des années, tu ne vas pas prendre le risque d'aller sur Twitter, parce que si ça merde, ben, c'est un gros problème pour ton personne, annonce.
Je pense que là, c'est un bon exemple, comme quoi il ne faut surtout pas faire ça. Quoi. Les prochaines annonces comme ça, les gens vont aller, je sais pas, sur Instagram ou sur Facebook, là où tu as des services, sur YouTube, sur Twitch. Mais à mon avis, avant de refaire une annonce, une grosse annonce sur Twitter, ils vont y réfléchir à deux fois.
Exactement, oui. Et une autre, là aussi c'est peut-être la news la plus importante dans le domaine de Twitter, on va dire des réseaux sociaux, c'est l'arrivée des custom feeds sur Blue Sky. Alors est-ce que tu sais ce que sont les custom feeds et est-ce que tu sais ce qu'est Blue Sky ?
Alors Blue Sky, évidemment, c'est donc le réseau concurrent entre guillemets décentralisé de l'ex-patron de Twitter qui s'appelle, j'ai un trou de mémoire.
Jack Dorsey. Pas mal.
Voilà,
pas mal.
Dorsey.
Déjà, t'as un bon 8 sur 10 là quand même avec ta réponse.
Oui, mais je sais, j'ai fait un petit dossier là-dessus dans le journal du hardware il n'y a pas longtemps. Mm-hmm. C'est intéressant. Après, voilà, c'est un peu comme Mastodon, mais ça ressemble, en fait, c'est quasiment une copie de Twitter, mais décentralisée, à peu de choses près. Et après, par contre, le custom feeds, eh bien, écoute, je te laisse l'expliquer, parce que je ne te cache pas que je n'ai pas lu la news.
Eh bien, écoute, c'est hyper important. C'est un truc dont on parle depuis longtemps. Dans l'amélioration substantielle de ce type de réseaux sociaux, c'est la possibilité pour un utilisateur de choisir son algorithme. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas un seul algorithme, que ce soit sur Twitter, Facebook, Mastodon, tous ont un algorithme. Bon, parfois deux algorithmes, on va dire. Vous avez le flux chronologique des personnes que vous suivez et le flux algorithmique que vous propose le service. Mais ce que dit Jack Dorsey, qui est plus activement impliqué dans Blue Sky, si je ne me trompe pas, il avait créé un fonds sorti de Twitter, mais complètement indépendant, pour le développement de ce réseau complètement décentralisé, qui n'est pas compatible avec Mastodon. Mais l'une des choses qu'il voulait faire pour ce réseau, c'était effectivement le choix des algorithmes qui est laissé aux utilisateurs et qui pourrait même en avoir plusieurs en parallèle les uns des autres. Et quand on dit le choix de l'algorithme, c'est-à-dire que l'équipe de développement de Blue Sky ou d'autres utilisateurs qui mettent les mains dans le cambouis peuvent créer des algorithmes et on a une sorte presque de plateforme ou de store, de boutique d'algorithmes en quelque sorte. Alors, ils ne sont pas payants, hein, ce n'est pas ce que je veux dire, mais on peut choisir d'en installer différents et ça peut donner des choses...
C'est l'équivalent du pour vous que tu trouves sur Twitter, en fait, qui est l'algorithme de Twitter de base qui gère les tweets que tu es censé aimer et qui te serait le plus
proche. Les tweets qui vont être présentés. Et bien là, c'est d'autres algorithmes qui pourraient choisir, par exemple, bah, de vous présenter les personnes que vous suivez uniquement. Alors ça, c'est classique. Qui peut vous proposer des contenus qui sont en lien avec vos hobbies. Vous n'avez possiblement même pas besoin de préciser quel hobby vous aimez, mais quand on dit ça va parler de vos hobbies, eh ben on va laisser de côté tout ce qui est, je sais pas, actualité ou sujet politique ou ce genre de choses. Au contraire, on peut dire il y a un flux qui va traiter de sujets politiques et au-delà de cette sélection de sujets, on peut également avoir des algorithmes qui vont choisir certains biais. Alors, ensuite, ça a forcément des conséquences particulières, mais on peut dire, eh ben, on va voir ce que dit plutôt la presse de gauche, la presse de droite, ou peut-être les personnes qui sont plus âgées ou plus jeunes, j'en sais rien, mais on peut imaginer toutes sortes de combinaisons différentes. Et si vous voulez avoir prendre la température du Twitter de, je sais pas moi, des zoomers, vous pourrez. Si vous voulez avoir la température du Twitter des boomers, vous pourrez, etc., etc. Donc, cette sélection... Et encore une fois, on n'est pas obligé d'en choisir un, et c'est tout. Évidemment, il y a une question de bulles et de cercles fermés qui risque de poser des problèmes, mais vous n'êtes pas obligé d'en choisir un seul. Vous pouvez...
C'est intéressant d'avoir le choix.
Exactement.
C'est essentiel, déjà.
Exactement. Il y a évidemment des problèmes... Que vous imaginez tout de suite, hein. On peut se dire, bon, bah, moi, je veux l'algorithme de la vérité qui est établi par mon camp politique.
Par Donald Trump.
Par exemple, voilà. Qui est encore plus problématique quand on a des des groupes qui favorisent la désinformation. Hein, c'est quelque chose qui est vraiment problématique. Mais sur le principe, effectivement, ça offre des possibilités qui sont vraiment intéressantes, je crois. Donc, et ça va être implémenté dans Blue Sky uniquement à ce stade. Blue Sky, je le rappelle, est encore en bêta fermée et ils n'envoient pas d'invitation. Ils ont beaucoup de succès, mais ils n'envoient pas d'invitation encore et ça risque de s'ouvrir à un moment, mais il est impossible de rentrer dans le réseau si on n'est pas déjà à ce stade.
On peut demander, demander à participer à la bêta, mais effectivement, je crois qu'ils n'envoient plus d'invitation depuis longtemps.
Yep. Donc, cette histoire de custom feeds, de flux customisés, de flux personnalisés, est vraiment, vraiment intéressante. Et c'est une évolution, comme je le disais, dont on parle pour les réseaux sociaux depuis très longtemps, mais qui arrive enfin et qui risque de changer fondamentalement la manière dont on considère la communication sur les réseaux sociaux, quoi. Et les conséquences et les implications sont très, très complexes. Je pense qu'on ne peut pas encore les voir entièrement à ce stade.
Donc, j'imagine qu'on va très vite avoir des marques ou des groupes politiques qui vont créer leur propre algorithme qui sera donc qui va ne faire que renforcer effectivement le biais de certaines personnes. À partir du moment où tu seras encore plus dans ta bulle, à la limite, si tu as un algorithme qui est créé spécifiquement par une entité.
C'est ça, pas besoin d'aller sur Truth Social ou Parler ou ce genre de truc. Et tu peux tout simplement utiliser l'algorithme Truth. Et tu as l'équivalent, quoi.
Est-ce que tu sais si les algorithmes vont être en open source ou pas ?
Je ne suis pas sûr. Enfin, en open source, oui, tu peux voir comment il est... J'imagine que oui, tu peux voir comment il est conçu, l'algorithme, comment il donne du poids à tel type de contenu, ou etc. Donc,
je pense que c'est aussi important que le fait de pouvoir créer différents algorithmes, c'est de pouvoir voir comment ils fonctionnent et de savoir justement quels sont ses biais, quelle est sa méthode de fonctionnement.
T'as raison, oui, probablement. Tout à fait. Et ça mitige un petit peu le problème, parce que si tu vois, je ne sais pas comment fonctionne la conception de ces algorithmes, mais si on voit le poids dans l'algorithme de Donald Trump, qui est 100 fois plus important que le poids de toutes les autres personnalités politiques, et les personnes qui sont proches de Trump ont plus de poids que les autres, bon bah ça, effectivement, tu comprends tout de suite que le flux de la vérité, on sait dans quel domaine, enfin, dans quelle personne, je dis Donald Trump parce que c'est l'exemple qui vient tout de suite, mais ça peut être n'importe qui d'autre, mais on comprend comment il est orienté, et c'est important de le comprendre, effectivement.
Tout à fait.
Quelques news en plus après ce journal de l'IA. Il y a des écrans qui ont été présentés par Samsung, des écrans OLED, bon, des écrans déroulables qu'on commence à bien connaître maintenant, des écrans de télé, mais il y en a un autre qui m'a particulièrement interpellé. C'est un écran de smartphone qui peut, un écran de smartphone qui fait la taille, on va dire, d'un écran de tablette plutôt, qui peut lire votre empreinte digitale n'importe où sur l'écran. Il n'y a pas besoin d'être sur une zone spécifique. Mais en plus de ça, il peut lire et estimer votre pression sanguine. Il peut estimer votre niveau de stress. Il y a plein de trucs qu'il peut estimer. Je ne sais pas à quel point c'est précis, mais je me demande comment ils font, quoi. N'importe où sur l'écran, tu peux lire l'empreinte digitale et lire le niveau d'oxygénation du sang. Enfin, je sais.
Il doit y avoir une couche supplémentaire, peut-être, qui permet effectivement de lire genre un truc. Je déconseillerais ça aux hypochondriaques. Hein. C'est le genre de truc que tu mets ton doigt. Il dit attention, ton rythme cardiaque est un peu élevé. L'enfer.
Là, c'est.
Mais c'est impressionnant du point de vue technologique. Il y a eu beaucoup d'avancées aussi sur les écrans, et spécialement sur ces écrans souples et tactiles. Samsung est quand même largement devant, parce qu'ils produisent aussi beaucoup, pas seulement pour la marque Samsung, mais aussi pour plein de marques, quoi. Apple, entre autres. Oui.
Samsung Display, je crois, c'est le nom de la société.
Il me semble, notamment.
Apple. Ouais.
Parce que bon, Samsung, il y a un immense conglomérat, on ne le répète jamais assez, qui ne fait pas que de la technologie, d'ailleurs, ils sont dans énormément de domaines.
La majorité des pays de l'Union européenne sont contre le chiffrement. J'ai l'impression que c'est un débat qui revient tout le temps, tous les quelques mois, tous les 6 mois.
Voilà.
Alors, le problème du chiffrement, effectivement, c'est que ça permet la communication avec des messages qu'on ne peut pas, auxquels on ne peut pas accéder, y compris dans le cas de contenus illégaux, et y compris dans le cadre du travail de la police. Pense au contenu pédopornographique, comme c'est souvent le cas dans ces discussions. Et du coup, il y a une quinzaine, une vingtaine de pays de l'Union européenne qui ont déclaré être vouloir avoir accès au contenu, même s'il est chiffré, sur des applications comme WhatsApp, Signal, etc. Le problème, c'est que, comme on le répète à chaque fois dans ce genre de cas, bah, si on a accès au contenu chiffré pour un type de contenu, on a accès au contenu chiffré pour tous les types de contenus, et du coup, il n'y a pas la possibilité d'avoir... Enfin, c'est irréaliste de se dire on donne les clés à une seule personne et personne d'autre ira voir, parce que le principe de base de la sécurité informatique, c'est que s'il y a une porte, d'autres personnes les trouveront, il y a des fuites, il y a des machins. Donc, en gros, d'ailleurs, il y a même des pays européens qui ont déclaré être opposés au chiffrement tout court, genre même pas juste pour les contenus pédopornographiques, au contenu au chiffrement tout court. Et donc, ça remet sur le devant de la scène cette question, est-ce que le chiffrement, et on ne va pas repartir sur les raisons pour lesquelles le chiffrement est important pour oui, la liberté de parole.
C'est un débat qui a été fait mille fois déjà.
C'est ça. Mais il y a deux choses que je note suite à ces informations. D'une part, la France n'est pas citée parmi les 20 pays, la vingtaine de pays qui voudraient scanner vos conversations chiffrées. Et l'autre chose que je note, c'est que la proposition qu'Apple avait fait il y a quoi, un ou deux ans maintenant, pour détecter du contenu pédopornographique sans justement briser le chiffrement, en détectant en gros des empreintes digitales numériques d'images connues et en alertant les personnes les scannant au niveau de leur serveur et sans véritablement lire le contenu. Eh bien, cette idée, elle n'était pas si mauvaise que ça. Et j'étais plutôt, tant qu'à essayer de trouver un moyen pour...
C'était la moins mauvaise solution.
Voilà, exactement. Alors ensuite, ce qu'exprimaient les opposants, c'était que cette technique pourrait être utilisée ensuite pour détecter d'autres types de contenus à partir du moment où elle était déployée. Et on le comprend. Mais si l'alternative, c'est de juste briser le chiffrement tout court, je ne suis pas forcément convaincu que ça soit la meilleure solution non plus, quoi.
Oui, oui. C'est toujours le même problème. On est toujours dans le même débat, de toute façon, à savoir que vouloir supprimer le chiffrement sur les conversations, c'est aberrant. C'est la base de la sécurité. C'est comme si demain, on te disait désormais, quand tu vas envoyer un courrier par la poste, il n'y aura plus d'enveloppe parce qu'il faut que tout le monde puisse voir au cas où quelqu'un envoie un contenu où quelqu'un envoie des photos à poil. Effectivement, on voit que c'est aberrant et c'est extrêmement dangereux pour les libertés individuelles.
On est d'accord. Deux petites news supplémentaires qui sont connexes aux jeux vidéo. D'une part, le PC Games, c'est Play Games, c'est ça. Le Play Games Store, c'est le Play Store de Google, d'Android, qui est adapté à Windows. Eh bien, figurez-vous que ce projet qui a été annoncé il y a plusieurs mois arrive en test, en bêta, en Europe et en Nouvelle-Zélande, avec une petite quantité de jeux du Play Store. Ça va arriver en France et c'est donc en cours de test. C'est hyper intéressant pour moi parce que c'est un moyen, on sait que les jeux vidéo sont la catégorie la plus populaire des App Store, et c'est un moyen pour Google d'amener un App Store sur Windows qui pourrait avoir être le début de quelque chose. On va voir s'ils ne vont pas l'abandonner au bout de 3 mois comme ils le font avec toutes leurs initiatives dans tous les domaines. Mais ça arrive et c'est quelque chose d'assez intéressant, je trouve.
Oui, le fait de pouvoir jouer effectivement à ces jeux Android sur PC, c'est vrai que ça leur ouvre un gros marché aussi.
Exactement, oui. Et l'autre news jeux vidéo lié, c'est l'annonce de Sony qui a présenté comment dire, alors c'est pas une manette, c'est pas une console, c'est le Project Q, qui est une sorte de manette PlayStation 5 coupée en deux. On l'écarte d'une dizaine de centimètres et on met un écran entre les deux et on raccroche le tout. Et ça sert à streamer du jeu depuis votre PlayStation à la maison ou peut-être chez quelqu'un d'autre si vous avez, là où il y a votre PlayStation, une connexion assez rapide. Elle arrivera en 2023. Mais c'est intéressant de voir que le succès de la Nintendo Switch fait que tout le monde est en train de réfléchir à comment on pourrait faire un truc. Alors, ils ne vont pas s'attaquer en frontal à la Nintendo Switch, mais comment on pourrait faire un truc un petit peu équivalent, proposer un produit pour que les gens puissent jouer à leur PlayStation même quand la télé est occupée, ce genre de choses. Et tout va dépendre du prix de ce projet Q.
Voilà, ouais, exactement. Parce qu'en fait, les gens ne sont pas trop convaincus là-dessus. Alors, c'est vrai qu'on a eu pas le jour. Bon, il y a le Steam Deck qui date déjà d'il y a un an et demi. Tu as aussi le Asus qui vient de lancer l'Ally, donc qui est en fait une console portable sous Windows sur laquelle tu peux jouer à tes jeux vidéo. Là, on est dans quelque chose de différent, parce que c'est du Remote Play. Donc, en fait, c'est juste du matériel qui permet de streamer de la vidéo et de jouer à distance. Et le vrai problème, comme tu le disais, c'est le prix. Parce que honnêtement, si c'est pour payer 400 balles, les gens vont plutôt aller se diriger vers un Steam Deck ou vers une ROG Ally qui va permettre de faire la même chose, quoi.
Je pense aussi, oui. On va dire, moi, je connais Sony, donc je pense qu'ils vont le proposer à 250€ et ça sera 50€ de trop, tu vois.
Voilà.
Mais si on est à 179€, c'est un accessoire, vraiment, c'est pas une console, mais c'est un accessoire qui pourrait intéresser certains joueurs. Ils ont précisé que ça serait pas pour leur service de streaming, donc il faudrait non pas streamer les jeux du cloud si vous avez un abonnement à leur service de streaming, mais uniquement depuis votre PlayStation elle-même. Donc ça, c'est un petit peu dommage, c'est une opportunité manquée, je crois, mais ça viendra peut-être.
C'est la PlayStation, en fait, qui sert de serveur pour streamer, en fait, tes jeux à toi, quoi.
Exact.
C'est-à-dire que ta console est en train de tourner. Non, mais le principe est intéressant. Après, le vrai problème, ça va être le prix. Et connaissant Sony, qui ont quand même tendance à tabasser un peu, qu'on voit qu'ils ont vendu leur manette pro, elle était à combien déjà? 300, 350 balles, je ne me rappelle plus.
Non, pas à ce point-là, mais oui, beaucoup 90, plus cher.
250
que... Ouais, quelque chose
c'est extrêmement cher pour une manette. Pour une manette comme ça avec écran, parce que rappelons que dessus, je crois que tu as le retour haptique sur les gâchettes, si je me souviens bien.
C'est ça.
Donc ça m'étonnerait fort qu'ils le fassent en dessous de 200. Et malheureusement, je pense que la barrière psychologique sur ce genre de matériel pour beaucoup de personnes, ça va être 150, 180 balles maximum, comme tu le disais.
C'est vraiment un accessoire. Hein, donc.
Oui, voilà.
On verra combien ça coûte. Si vous appréciez le jeu vidéo, je vous encourage à écouter le rendez-vous jeu, et en particulier l'épisode qui va arriver cette semaine, puisqu'il y a encore des énormes sorties de jeux, notamment Diablo 4 et Street Fighter 6, qui se profilent tous les deux comme étant... Alors, on vient d'avoir les premiers tests de Street Fighter 6, qui a de très très bons résultats. Diablo 4, j'imagine que ça sera très bon aussi. Les tests arrivent dans quelques heures, donc elles sont... dispo au moment où vous écouterez cette émission.
Oui. Je vais encore perdre beaucoup de temps sur ce jeu, je le sens. Des heures encore perdues.
tu n'es pas le seul. Mais on en parlera dans les deux prochains rendez-vous jeux. Donc, vous pouvez aller écouter ces épisodes si vous voulez les topos là-dessus. La raison pour laquelle j'en parle en particulier, c'est que des jeux comme Street Fighter, des jeux comme Diablo, c'est des jeux qui rappellent de très bons souvenirs à des gens qui ne jouent peut-être plus depuis, on va dire, les années 90, des années 2000. Et l'arrivée de ces nouveaux numéros pourrait être l'occasion pour elles et eux de s'y remettre. Donc, si vous voulez avoir les topos là-dessus, vous pouvez écouter le rendez-vous jeu qu'on enregistre jeudi. Et jeudi prochain, on va parler dans les deux épisodes, je pense, de Diablo 4 et de Street Fighter 6, notamment, en plus de l'actu, bien sûr. Et je crois qu'on arrive au bout de ce rendez-vous tech. J'ai survécu grâce à toi, Siegfried.
Écoute,
merci.
On ne voit pas du tout, on n'entend pas que tu es fatigué. En tout cas, tu es toujours aussi professionnel. Tu arrives.
Merci. Je vais m'effondrer après, là. Tu vois, j'ai encore 2 minutes dans la batterie. je clignote. je suis passé. J'ai dit non, je ne veux pas passer en mode économie d'énergie. Donc, elle se consume très, très vite. Donc, il faut vite que tu nous dises où on peut te retrouver sur Internet quand tu n'es pas dans le rendez-vous tech avec nous.
Eh bien, écoute, sur le podcast L'Apéro du Capitaine, toutes les 2 semaines en live sur Twitch, twitch.tv/adcpodcast, et en replay, qu'on a le temps de les poster, c'est-à-dire environ avec 3 à 4 mois de retard en ce moment. Nous ne sommes pas aussi rapides que toi, Patrick. Et puis, bah, le journal du hardware, c'est malheureusement fini sur le stream, mais demain soir, pour ceux qui sont, enfin, qui écoutent, si tu postes ça dans la journée, mercredi soir, mercredi 31 mai, on a la dernière sur le stream, donc où c'est une grosse soirée où on est tous invités et on va faire la fête en direct pour fêter cela. Voilà.
Magnifique. Oui, c'est dommage que le stream se disparaisse, mais je comprends, effectivement, c'est pas facile de tenir...
Ouais, économiquement, c'est compliqué quand t'as 5 personnes sur un plateau, 4 personnes en régie, plus tout, voilà. C'est un problème économique, mais bon, c'est le modèle, le business model de Twitch qui fait que ça a évolué. Mmh. Et voilà, mais bon, c'est pas grave, il y a d'autres opportunités derrière. Il y a des choses qui arrivent, ça va, on n'est pas...
Très bien, très projets. Bien. J'ai hâte que tu m'en dises plus, très bien. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter et les autres réseaux. Vous avez aussi le Discord où on se retrouve pour discuter entre amis dans une ambiance bienveillante et sympathique. Et on est généralement sur Twitch le mardi midi et le jeudi midi. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais généralement, c'est le cas. Et on le sera la semaine prochaine, j'en suis sûr, pour débriefer Apple, la conférence qui aura lieu lundi soir. Donc, on vous en parlera dès le mardi midi. Et bien sûr, Patreon, patreon.com/rdvtech. Si vous appréciez l'émission, pensez-y. C'est sympathique pour moi, parce que ça me permet de manger. Et j'espère que c'est sympathique pour vous aussi, parce que ça vous permet de soutenir un créateur que vous appréciez. Donc, merci à vous tous, merci à vous toutes. Merci de nous avoir écoutés. Et on se donne rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode. Ciao, ciao.